Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Éric Dimeco.
Et voilà, on y revient. Au Bastille, il est 16h05.
C'est un putsch.
Et je vous l'annonce, donc, je vous fais une annonce officielle. Après ma première heure, qui a été appréciée en haut lieu, je reprends la tranche 15h-18h, le Dimeco Show. Et je serai en compagnie toutes les semaines de Denis Charvet, The Flower of Cahors. Comment ça va, mon Denis?
Ah, tu me fais trop.
On l'a dégagé. Il nous a coulé. La grande de saucisse,
oui, allez,
de Boulazac.
Super.
Eh ouais, Steve Brun, avec Adrien. Le Rocco Siffredi de Gange et Pierrot Dorian.
Le vélotiste
du 20e.
Est-ce que tu inviteras Vincent Moscato régulièrement dans ton émission?
Ouais, parce que nous, on n'oublie pas la main qui nous a nourris, donc on l'invitera régulièrement.
Pour parler boxe.
C'est un putsch.
Voilà,
c'est un putsch parce qu'en plus, les auditeurs ne voient pas, mais Eric est à la place du boss.
Non, mais moi, on m'a dit. Écoute-moi, en haut lieu, on m'a appelé, on m'a dit ta première heure, elle est tellement. Sublime par rapport à ce que faisait le gros ces derniers temps. Ouais. C'est pour toi,
Georges.
Voilà.
C'est Georges Putsch.
Georges Putsch.
Voilà. Je me permets, je pourrais faire le même van que quand c'était Vincent.
Ah oui, ouais, merci. On change rien, les gars.
Alors, le programme cet après-midi,
bon,
du Super Dimeco Show. Donc, Ousmane Dembélé.
Non, ça va, je pourrais avoir une émission.
Le Super Moscato Show avec le problème tout de suite. Et puis à 17h, les Marseillais vont-ils sortir la tête de l'eau? On entendra Jean-Louis Gasset avant ce Lille Olympique de Marseille. Journal moyen. Deuxième édition, Adrien.
L'histoire d'un plouf, d'un plongeon qui a fait le tour du monde. J'ai glissé, chef. Oui, ça s'est passé hier dans un haut lieu olympique, 16h45. Et puis Christophe Furios, celui que tu surnommes Totof, tu le connais bien. Nouvel extrait de Christophe Furios dans les vestiaires.
C'est Christophe Furios.
Il est colère.
Ouais.
Il est colère parce qu'il faut les fracasser.
C'est un peu ton gars, Christophe Furios, non?
J'aime bien. J'aime bien le personnage.
Mmh. Et moi, j'ai bossé avec lui.
Ouais. Ouais. Christophe, il dit à ses joueurs, faut les défausser.
Si t'avais eu Furios en coach, tu te serais embrouillé avec lui.
Avec lui,
je connais bien Christophe, je peux te dire, il l'aurait viré
direct.
Qui
te dit qu'il m'aurait pas.
Christophe,
capitaine.
Christophe aime bien les joueurs de caractère. Il était proche de Rory Cocotte. Chris Stephen, c'est un peu le Rory Cocotte de basket.
Oui, c'est Rory Poupou.
Et puis je vous rappelle que dans le Kikadi, à 17h45, Eric Dimeco jouera le grand chelem. Donc vous pouvez l'en empêcher en envoyant Kikadi par SMS au 732-16. Ou alors vous pouvez l'aider. On n'est pas toujours contre les gens dans la vie.
Moi, cette semaine, écoute-moi, bio à 100%.
Non, mais j'aimerais que tu fasses un Kikadi.
Cette semaine,
propre.
100% bio, cette semaine.
Propre.
T'as pas triché du tout
Non, mais je triche jamais. Mais cette année, en plus de pas tricher, j'ai pas triché. Mais c'était extraordinaire.
Mets-toi dans un studio, tu jures sur la tête de tes enfants que t'as jamais triché au Kikadi.
Ah moi
mais
je
de rien, t'inquiète pas.
Ah moi je jure sur la tête de mes enfants que j'ai jamais triché.
Allez tout de suite.
Mais mec, j'ai croisé tous mes doigts des pieds et je vais vous dire, j'ai pas croisé que mes doigts de pied.
Ouais. À quoi reconnaît-on un génie dans la vie?
CD, GPS, toutes ces inventions sont devenues banales. Toutes doivent pourtant leur existence aux découvertes d'un homme.
Et le but est refusé. Ousmane Dembélé devra attendre pour ouvrir finalement son compteur but.
Albert Einstein, il a redessiné la géométrie de l'univers.
Comment on pourrait dire ces gens qui partent sur la route, pas les évangélistes, mais presque, non? Comment on pourrait les appeler?
Comment a-t-il fait? Qui était-il?
C'est un enfant gâté de la vie. Hein.
Quel a été le parcours de cet enfant, fasciné par une boussole à l'âge de 5 ans?
Moi, c'est un personnage de pagnonesque.
Assailli par des questionnements simples qui ont fait de lui un génie.
Et c'est Groucho Marx qui disait dans un cordon vieillard, il y a un enfant qui se demande ce qui s'est passé.
Dimeco, il va te le régler le problème.
Mais dans le cordon vieillard, il y a un enfant.
Dimeco, il règle le problème, c'est incroyable.
Non, mais je vous ai dit, on l'a viré le gros.
Ce qu'il a fait, il est allé dans le bureau de la prod, il a dit changez tous les génériques.
Il n'est pas là, moi je prends le pouvoir, il dégage.
Attends, il faut réfléchir. Vincent, je suis avec toi, Vincent.
C'est Poupouch.
Faut voir qui est le plus riche. Vincent, je suis avec toi.
Est-ce que tu crois que.
Par contre, pour la première vanne, je l'avais jamais entendu là de. C'était laquelle là dans la prod?
L'évangéliste?
Ah, les évangélistes! Alors donc, presque évangéliste, c'est quoi
la première heure, toi?
C'est quoi presque évangéliste du coup?
Non, mais c'était, voilà quoi.
Réflexion quoi.
C'est un témoin de Jéhovah.
Écoute-moi, cherche pas.
Il a frappé aux portes.
Le mieux, c'est de pas chercher. Alors, un prince évangéliste, c'est le mec, il arrive devant la porte, il va pour taper. Imagine. Et il tape pas, il s'en va.
Imagine le mec qui vient t'évangéliser, en plus, il est en scaphandrier.
Arrête-toi.
Vous allez être tous virés, je vais appeler Vincent.
Tu penses que Ousmane Dembélé, quand il sera vieux, il se demandera ce qui s'est passé dans ce port d'enfant?
Lui, je pense pas.
Alors, Ousmane Dembélé, on en parle. Grand joueur ou pas grand joueur? Ce qui est indéniable, c'est que c'est un grand dribbleur. Ce qui est aussi indéniable, c'est que c'est un piètre buteur. Génial d'un côté et exaspérant de l'autre. Est-il un fouriclas? C'est le super Moscato Show règle le problème. La stat, vous la connaissez? Cette saison, Neymar a marqué plus de buts pour le PSG qu'Ousmane Dembélé. C'est la vérité, c'est vrai. Ça s'est passé au mois d'août dernier en Corée du Sud. Vous allez aussi écouter l'hommage de Julien Stéphan, le coach de Rennes, à propos de l'ancien Rennais Ousmane Dembélé.
Quand on parle d'Ousmane, on parle toujours de ses défauts. Enfin, en tout cas, quand on me questionne sur Ousmane, et moi je réponds toujours sur ses qualités. Parce que je trouve que c'est un joueur en norme. Dans le déséquilibre, dans le dribble, dans la faculté à créer des espaces, c'est un joueur exceptionnel. Voilà. S'il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d'Or aujourd'hui, c'est vrai.
S'il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d'Or.
Alors, Ballon d'Or, c'est haut, hein, c'est très haut, les gars.
Non, mais ça veut dire que s'il met autant de buts que Mbappé, le joueur que c'est, il
serait Ballon d'Or. Entre pas mettre entre pas mettre 40 par an, si tu en mets que 20, quand tu es truc, c'est pas Ballon d'Or.
D'accord, mais tu veux le voir.
Surtout que Mbappé, les amis, les 40 buts, et il est pas Ballon d'Or.
Oui, voilà, plus. Donc, déconnez pas quand même.
Donc, t'es sceptique sur la phrase de Julien Stéphan, mais fouriclas ou pas fouriclas?
Non, mais. Dembélé, il est fascinant parce que dans le football actuel où il y a de moins en moins d'espace, où les mecs jouent très haut, il a une faculté à éliminer qui est très très rare. Alors. Très très rare, c'est pas des dribbles arrêtés, c'est souvent il enchaîne, c'est-à-dire le mec il fait à travers des défenses, il fait un slalom, c'est-à-dire qu'il est skieur du football et ça c'est assez énorme. Donc il est fascinant. Sauf que dans le football, il y a éliminer, c'est une faculté, mais après faire la bonne passe, faire le bon geste quand tu es attaquant, ça n'est une autre. Et c'est pour ça que tu parlais de Neymar justement. Neymar qui, il nous énerve, il nous énerve pas. On l'a critiqué, on l'a pas critiqué. Il finira peut-être sa carrière en queue de poisson.
Peu importe,
mais Neymar, c'est un très très grand joueur. C'est un joueur hors norme, c'est un joueur rare. C'est-à-dire que les Brésiliens en fabriquent un par génération comme ça. Et, bon, il a gâché peut-être la fin de sa carrière. Il a toussé. Mais malheureusement, Dembélé, il est pas à ce niveau-là. Justement, puisque vous faisiez le parallèle des buts de Neymar cette année avec Dembélé. Malheureusement, si tu joues devant dans un grand club, ben tes stats, elles comptent. Si tu as 3 passes décisives et un but, ou 5 passes décisives et un but, au Paris Saint-Germain qui survole la Ligue 1 et qui est dans le dernier carré de Ligue des Champions, qui sera peut-être dans le dernier carré de Ligue des Champions.
On le souhaite.
Ça suffit pas. Oui, vous le souhaitez.
Tout le monde le souhaite.
Donc, vous tous, vous le souhaitez. Et donc,
je sais pas comment ça se
Et donc, malheureusement, c'est un gros handicap. Quand tu joues dedans, tu peux pas dire s'il mettait 20 buts ou s'il est truc.
Est-ce qu'un joueur, tu le prends aussi pour ses qualités, ses défauts, on est d'accord?
Oui, non, mais quand les défauts sont trop criants par rapport au poste.
Oui, mais sauf que cette saison, je suis désolé. Alors, évidemment, tout ce que tu as dit, tu as raison.
Il a fait 13 passes décisives.
Mais quand même, il a fait 13 passes. Cette saison, il a un impact. Tu peux pas dire qu'aujourd'hui, Dembélé n'est pas essentiel au PSG. Dans le jeu, dans la stratégie, je trouve, il est fascinant. Alors évidemment, il loupe les buts. Mais tu te dis,
Les 13 passes décisives, c'est en quoi? C'est en championnat ou combien en championnat du coup?
Oh, je sais plus.
Non, il était, il y a encore 2 semaines, il était en tête du classement des passeurs. Mais c'est pas mal. T'as raison, Denis, mais je vous pose une question. Vous êtes président du Milan AC. Il y a un agent qui vient vous voir, vous dit, je peux faire Dembélé 2 ans, et je peux faire Coman 2 ans, mais il faut en choisir un des deux, Kingsley Coman. Vous prenez qui? Président du Milan, c'est 2 ans, ils ont le même âge, on va dire. Tu prends Coman ou Dembélé?
Prends les deux, il y en a un qui joue à
le budget, t'en prends qu'un.
Alors, non, moi, je vais te dire.
Avec Coman,
moi, je vais te dire la vérité. Mais bon. Je préfère Coman depuis toujours, je l'ai toujours dit. En équipe de France, je militais pour lui sur le côté droit quand il est en pleine possession de ses moyens.
Parce que
le problème, c'est qu'il s'est beaucoup blessé.
Dembélé aussi.
Mais il a un truc, Coman, c'est que il est précieux défensivement parce que. Et d'ailleurs, Didier, il a joué piston dans une défense à 3 défenseurs centraux. Il a une faculté. Alors, il fait presque toujours le même dribble. C'est ses ailiers qui vont fixer, qu'il faut le crochet externe avec beaucoup d'explosivité. Dembélé, il a plus de variété dans le dribble.
Tu prends Coman ou Dembélé, toi?
Sauf, non, moi je prends Coman.
Coman. Ah,
moi, je prends Coman. Moi j'ai plus d'assurance.
Aussi,
j'ai plus d'assurance sur la saison.
Moi j'ai une question à poser, Eric. Je veux dire, en plus, t'as joué avec Jean-Pierre Papin, donc c'est un bon exemple qui au début était maladroit dans sa carrière, qui est un vrai avant-centre type, qui est un vrai scoreur, un marqueur. Il loupait beaucoup d'occasions au départ.
Non,
j'ai une question à poser à Eric parce que je n'ai pas la réponse. J'aimerais qu'il essaye de me la trouver, de me la donner. Le problème, c'est que JBP, il a travaillé pendant des années, il a réussi à marquer.
Alors moi, je peux pas croire.
Dembélé, je peux pas croire qu'il travaille pas.
Moi, je peux pas croire qu'il travaille pas devant le but. C'est parce qu'il est maladroit ou qu'il perd ses moyens quand il arrive devant le but.
Quelle est la raison pour laquelle ce mec perd ses moyens?
Attention quand même, il y a une grande différence entre JPP qui était souvent dans la surface de réparation et qui bénéficiait des centres, et donc ce travail-là, c'était face au but. Et Ousmane Dembélé, qui est dans le couloir, il enchaînait les 25 dribbles et rentrait.
Non, mais ce que veut dire,
c'est pas pareil.
Ce que veut dire Denis, ce que même si tu pars du côté que tu as pas les occasions qu'on a pas centre. En réalité, quand tu regardes ce que faisait Thierry Henry côté droit, par exemple, Dembélé avec ses qualités d'élimination, il devrait faire toujours ou en tout cas deux ou trois fois dans le match ce crochet qui t'amène dans l'axe avec ce ballon pied gauche enroulé va trouver le petit filet. Mais regarde comme il en a d'occasions comme ça, il en a souvent des occasions comme ça.
Très souvent.
Mais combien de fois il a tué les Sadier? C'est terrible.
Oui, mais ça s'apprend pas forcément, mais en même temps, tu peux t'améliorer.
Donc tu travailles, tu y arrives. Alors que Dembélé, c'est pas un but tourné, c'est un dribbleur.
En travaillant, tu penses que.
Non, moi, je pense que ça sert à rien.
Géraud, il y a quand même une anomalie dans la saison d'Ousmane avec le Paris Saint-Germain. C'est un but, alors que ça n'a jamais été un grand scoreur. À Rennes, avant qu'il meure,
il met
12 buts à Rennes en 29 matchs. À Barcelone, il a fait des saisons à plus de 10 buts. Au Borussia, il a fait une saison à plus de 10 buts. Donc. Je ne demande pas d'en mettre 20, mais il a cette capacité d'en mettre au moins 10. Là, c'est une anomalie pour moi.
Non, mais c'est une anomalie. Il faudra voir l'année prochaine, justement. Parce que si le mec, il fait 15 passes décisives, 10 buts, à son poste, tu prends, je signe de suite.
Et si je fais parallèle avec un sport que j'aime bien, le tennis, Ousmane Dembélé, c'est Gaël Monfils. C'est-à-dire que tu vas le voir. Il te fait des choses. Tu vis des moments. Il y a des émotions.
Mais il nous régale.
Tu te lèves de son siège. Bien sûr. Tu chiffes. T'es comme ça. T'es surexcité. Et à la fin, il y a toujours une ou deux insultes quand même qui part. Parce que tu vois, il y a des sessions. Tu n'es pas obligé. Mais elle est là quand même. Parce que il te fait monter très haut et tout d'un coup. Ah non, Ousmane, merde. Mais c'est un mec. Il faut prendre le package, en fait. Il faut prendre le package Dembélé.
Mais t'es obligé. Hein.
C'est ça, t'es obligé de la
suivre. Tu sais que de temps en temps, il y a une frappe de pupille ou.
Il faut trouver le joueur ou les joueurs qui vont sublimer ses causes.
Ouais, vous savez qu'il est tellement déroutant, il se déroute lui-même. Je vais vous faire écouter quelque chose qu'on connaît, mais qui est quand même fascinant. Il a 17 ans. Il sort d'un super match avec le Stade Rennais, entraîné par Roland Courbis. Et le journaliste de Canal Plus lui pose une question.
Il est
totalement dérouté, Ousmane Dembélé, 17 ans. Écoutez.
Vous êtes droitier ou gaucher?
Gaucher.
Sûr, parce que vous marquez aussi de droit.
Ouais, je suis plus gaucher.
Et les pénaltys, vous ne tirez pas du droit?
Si.
Pourquoi?
Parce que je tire mieux du droit.
C'est extraordinaire.
C'est pour ça que ce sont le VGD, mais on ne sait pas si les droits tu es au gaucher.
C'est incroyable quand même.
Mais Thiro, excuse-moi, pour revenir sur Ousmane Dembélé. Avant lui, c'était qui? André Di Maria. Tu prends qui, toi?
Di Maria.
Faire entre les deux.
Non, Di Maria. Non, mais Di Maria, c'est un joueur de plus haut niveau.
Du coup, on a répondu à la question du jour, Pierrot.
C'est la question évidente.
Ce qui est triste aussi.
Par contre, franchement,
moi, il me régale.
Je ne sais pas, dans mes souvenirs, un aussi bon dribbleur
que Dembélé.
Il n'y en a pas des masses. Hein.
Non, mais même dans l'histoire. Mais tu sais quoi? Tu peux même chercher dans l'histoire.
Il a, je sais pas, ce mouvement de corps. Je sais jamais s'il y a un petit coréen.
Non, même aussi, qui est pas mal.
Non, mais oui. Écoute, le petit coréen, il paraît que.
Ronaldinho.
Non, mais il faut aller chercher dans l'histoire du football pour voir un mec qui est éliminé comme ça. Le petit Ben Arfa avait cette faculté aussi à éliminer dans les petits espaces. C'est tout. Dembélé, il a un point fort, c'est que justement le fait de et pour un défenseur c'est terrible, c'est-à-dire que il te fixe, il peut partir à gauche crochet, à gauche extérieur, pied droit crochet, pied droit extérieur, c'est-à-dire que il a quatre dribbles dans sa musette. Alors que un Chris Waddle par exemple, il faisait tout avec le pied gauche. Donc il pouvait aller de l'extérieur, il pouvait aller, mais il avait deux dribbles, on va dire. Mmh. Alors après, il avait une accélération qui fait. Mais lui, il a un truc qui est.
Comment il fait extraordinaire.
Je sais pas.
Quand il a droite,
je sais pas. Je sais pas. Ben moi, je l'aurais pris à deux avec le défenseur central. Nous, on aimait quand il y avait des mecs qui allaient vite. Il y avait des super dribbleurs aussi. Quand tu jouais au niveau international, à l'époque, il y avait des grands dribbleurs. Ou tu avais des mecs qui allaient à 2000. Tu avais Overmars. Moi, je me souviens, Overmars Pays-Bas qui allait à 2000 à l'heure. Tu sais que tu es en difficulté sur la vitesse. Eh ben toi, tu le prends proche quand il vient.
Et, tu prends
le crochet externe et le défenseur central vient te couvrir dans l'axe et tu le prends à deux.
Après, au pire, pour Ousmane, tu défends pas, tu le laisses aller au but. Et tu iras à côté.
Mais je pense que le jour où il y a une équipe qui va faire ça, qui va s'enlever du milieu, lui ouvrir les vannes pour voir ce qu'il fait, il va casser le stade quand même.
Mais il a aussi parfois la maffre. Parce que vous avez vu l'action où il a failli marquer sur le but de l'année, il a triplé 4 joueurs, 5 joueurs. Et au moment de tirer, le ballon, il a envoyé rebond. Tu te dis, il a pas de cul quand
contre
même parce
contre
que
Rennes là
contre Rennes
le ballon s'envole
mais le ballon il se lève et du coup le ballon il part au-dessus.
Alors Ousmane Dembélé est-il un foiré classe? Nous allons demander à Ethan qui nous appelle de Bretagne. Salut Ethan.
Salut tout le monde. Bonjour à tous et bonjour monsieur le président d'Imeco.
Ah voilà, merci. J'espère que ça y est. Non, mais ça y est, je suis reconnu par les auditeurs, c'est mort.
Ethan, du Finistère. J'avais précisé si c'était par intérim ou pas.
Ah bah oui, c'est déterminé.
C'est par intérim, je te le confirme.
Ousmane, alors, tu es supporter du PSG, Ethan, on est d'accord.
Dans quelle classe tu le
range? Quelle classe de joueur?
Non, pour moi, Ousmane Dembélé, c'est un joueur hors norme. Faut pas oublier que... alors, le problème, c'est que oui, d'accord, il marque qu'un but. Ça, ok, on est d'accord. Mais je trouve que ça... Il est compensé par le fait qu'il y en a d'autres qui marquent. Tu vois, ce serait vraiment un problème si non seulement lui, il marquait pas, mais que les autres avaient aussi des problèmes dans le but. Là, t'as Kylian Mbappé qui marque beaucoup de buts, t'as Gonçalo Ramos, t'as Vitinha, t'en as beaucoup qui marquent des buts à Paris, donc ça compense un peu. Et ce que fait Ousmane Dembélé, c'est la provocation. C'est-à-dire que même quand il y a des moments où Paris, ils vont pas si bien que ça, ils arrivent pas à développer le jeu, ils arrivent pas à aller vers l'avant, à se projeter, t'as Ousmane Dembélé, c'est le seul qui sort à peu près du lot dans une mi-temps, parce qu'il va aller bouger les défenseurs adverses, il va provoquer. Moi, j'adore sa combinaison, sa complémentarité avec Achraf Hakimi. Je trouve même qu'il y a Warren Zaïre-Emery, je commence à observer ça, Zaïre-Emery qui commence un petit peu à s'intégrer au duo, là. Je sais pas trop vraiment si je suis le seul à observer ça, mais Zaïre-Emery, pour moi, s'intègre pas mal à ce duo Hakimi-Dembélé. Et c'est pour ça, et même je trouve qu'il a augmenté sur le plan, il a évolué sur le plan psychologique, il est beaucoup plus mature qu'avant, il progresse ce joueur-là et il amène cette percussion que Paris a besoin d'avoir dans des moments où ils en ont pas, alors que côté gauche, tu vois par exemple que Hernandez Mbappé, c'est un petit peu plus ronflant, je pense qu'avec Nuno Mendes, ça va être un peu mieux, mais côté droit, t'as cette percussion, t'as ce danger apporté par Hakimi Dembélé.
Et je rajoute juste à ton analyse que si vous vous souvenez des matchs du mois d'août sans ni Mbappé ni Dembélé, c'était d'une tristesse.
C'est les deux facteurs X, hein, ça on le nie pas. Sauf que dans ton propos, ce qui est gênant, c'est que l'année prochaine, Mbappé va partir. Alors on ne sait pas le recrutement qu'ils vont faire. Hein, mais
ouais,
là, à ce moment-là, il va falloir à un moment donné qu'il compense, puisque tu dis, il y a un mec qui met des buts. Donc le jour où, alors quand il joue, alors il faut qu'il joue soit avec Lewandowski, soit avec Kane, soit avec Mbappé, parce que sinon, il ne sera jamais le leader de l'attaque s'il n'a pas ce truc. Et d'un autre côté, juste, je finis par rapport à ce que tu dis sur le côté droit, j'ai oublié le prénom.
Ethan,
tu as complètement raison. Et moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Mais bon, il paraît que c'est le football d'aujourd'hui et il paraît que c'est bien.
C'est quoi?
Mais comment, quand tu as un côté droit Hakimi,
les explications, elle est assez simple.
Incompréhensible.
C'est qu'il a besoin de Dembélé dans l'axe parce qu'il n'a pas assez de créativité.
Il compense avec.
Parce qu'on a mis le terrain qui n'est pas assez créatif.
Je sais que la solution, c'est assez dur dans l'axe et que Dembélé sur le côté droit.
Mais pour revenir sur Ousmane, qui sera encore parisien l'année prochaine, il va falloir combler les 40 buts en moins que Mbappé.
Tu sais déjà que ce n'est pas Dembélé qui va te les combler.
Non.
Il faut trouver l'association Dembélé X. Pour combler ça, oui, c'est sûr.
T'as Ethan, j'ai une question pour toi. Comment on peut être du Finistère et ne pas être supporter du
Brest Armorique,
du stade brestois de
Brest-Chardonnay?
Je ne suis pas supporter de Brest, mais supporter de l'En Avant Guingamp.
Ah, ouh là là, c'est pire.
Mais du coup,
j'ai de la chance qu'ils soient en Ligue 2 actuellement, parce que sinon les Guingamp PSG ce serait tendu.
Mais est-ce que tu souhaites malgré tout le succès de Brest quand tu es Guingampais?
Là, tu te régales, là.
Donc, en tant que supporter parisien, je suis allé au stade pour Brest-Marseille et j'ai chanté « Hey, ils sont où les Marseillais ?»
Je te confirme.
Ça, je n'entretiens aucune rivalité avec personne. Ça très bien.
Et je te confirme que ce soir-là, ils n'étaient pas à Brest, les Marseillais.
Et qu'est-ce que tu penses des dribbles chaloupés de Brendan Chardonnay? Il y a un peu de
Dembélé dans le Brendan.
Il ne sait même pas qui c'est.
C'est solide.
Tu sais qui c'est, Brendan Chardonnay?
Le dribble, ce n'est pas son but. Le dribble, ce n'est pas son métier principal.
Tu sais qui c'est quand même, Brendan Chardonnay, au moins.
Brendan Chardonnay, oui, il est là depuis longtemps. Hein. Je suis quand même Brest, mais non, je préfère.
Merci beaucoup, Ethan. Et en avant Guingamp, hein, Ethan.
Il y a du gaz, Ethan.
C'est quand même très bon, ça.
Très bon, ça.
C'est quand même le nom de club le plus naze de France, non?
L'en avant, Guingamp.
Dans un instant, le Biarritz Olympique est vendu pour le meilleur ou pour le pire. On va tout vous dire. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
16h30 sur RMC, c'est le Super Moscato Show qu'on va bientôt rebaptiser le Super Dimeco Show. Il y a encore un Kikedi à gagner, hein, Eric. Moi, je valide le changement de programme seulement si tu fais le
contrôle
tout à l'heure.
Exactement.
Voilà. Tu le sens bien?
Sinon, je retournerai ma petite condition de chroniqueur d'une émission.
Tu sais que t'es obligé d'habiter Paris après.
Ah oui.
Ah ouais, ça, c'est la merde, ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai jamais. Alors, je vais te dire, c'est pour ça que j'ai jamais voulu mon émission. Hein.
Sinon, tu l'aurais eu, claquant des doigts.
On m'a proposé deux fois d'avoir mon émission.
Je pense que
j'ai préféré rester.
Tu sais quoi, je pense que Roten n'aurait jamais existé.
Je n'ai jamais voulu vous quitter.
T'as eu une offre d'une autre radio un jour?
Il y a eu Marshall, oui. Marshall Dimeco à la place de Marshall Truchot.
T'as eu une offre d'une autre radio un jour ou pas?
Dis-nous,
de parler de ça.
C'est confidence.
Moi, je le sais. Il y a une proposition. Il crée le premier journal du hard radio. Eric,
radio. Vous devez le présenter. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le journal du hard. Alors voilà. Alors le problème, c'est que comme c'est que auditif et pas visuel. Et il fallait envoyer la purée.
Dans une demi-heure, l'OM va-t-il sortir la tête de l'eau? D'abord le Mosca Zap.
Il fallait pas avoir du plomb pour la carrière.
Le Mosca
Zap. L'info du jour en rugby, c'est une info RMC Sport. Ils vont être nombreux à être soulagés. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire heureux, mais au moins soulagés. C'est la vente du Biarritz Olympique pour 1 euro. Louis-Vincent Gave a cédé le club à un trio d'anciens joueurs. Paul Lafitte, bonjour.
Salut Pierrot, salut Mosca Paul.
Et bonjour à toutes. Parmi ces anciens joueurs, il y a un ancien Biarro, Sean Egarty, et associé à Egarty, Philippe Van Der Merve et Marc Baget.
Oui Pierrot, c'est une surprise hein, car les derniers bruits de couloir faisaient état d'une reprise du club rouge et blanc par des investisseurs irlandais voire néo-zélandais, mais en aucun cas d'acteurs locaux comme Sean Egarty, Philippe Van Der Merve et à un degré moindre Marc Baget. Alors Sean Egarty, appelé à devenir le futur président du conseil de surveillance du BO, est un enfant du Biarritz Olympique, club avec lequel il lancera sa carrière au poste de trois quarts centre au tout début des années 2000, l'âge d'or bien sûr du rugby biarro, avec deux titres de champion de France à la clé en 2005 et 2006 aux côtés de Marc Baget, ancien troisième ligne reconverti dans le milieu des assurances, un pote au long cours d'Egarty qui intégrera lui aussi l'organigramme du Biarritz Olympique à un poste qui reste encore à définir. Le troisième personnage de ce triumvirat se nomme Philippe Van Der Merve, ancien deuxième ligne de Clermont avec 37 sélections en compteur sous le maillot des Springboks, un colosse de près de 2 mètres qui n'a jamais lui porté les couleurs d'un club au Pays Basque mais qui a installé son activité professionnelle à Biarritz avec deux entreprises, l'une spécialisée dans les conseils en data, l'autre dans la fabrication de vélos hydrogène, et c'est ce beau bébé âgé de 38 ans qui deviendra dans quelques semaines le nouveau président du directoire du Biarritz Olympique.
Alors quand même quelques précisions, évidemment c'est pas une très grosse entreprise, c'est pas un énorme mécène qui arrive, est-ce qu'on a une idée, juste une idée de l'ambition de ces trois-là, parce qu'on sait que le BO a un déficit structurel de à peu près 6 millions d'euros, c'est énorme, oui. Annuel, et qu'il évolue en Pro D2, donc faut quand même de l'argent hein.
Ouais, il faut de l'argent. Alors Pierrot, la question a été posée à Jean-Baptiste Aligé qui a tenu une conférence de presse dans les murs du stade Aguilera, c'était en tout début d'après-midi, et lorsque l'on a posé la question à Jean-Baptiste Aligé, il a botté en touche en déclarant seulement qu'il voulait que le BO termine cette saison, reste évidemment en Pro D2, et que pour ce qui était des finances du club dans les mois et les années à venir, eh bien la question serait posée au futur patron donc du Biarritz Olympique. On évoque peut-être bien dans les couloirs d'Aguilera peut-être une enveloppe d'1,5 million d'euros pour aider le club club a émergé, mais enfin, on n'a pas plus d'infos à l'heure où on parle sur les différents budgets qui seront alloués au Biarritz Olympique pour les prochains mois.
Bon, c'est juste que le club est sauvé, oui, à court terme, mais quoi, à gros terme. Denis, c'est ça.
Oui, à court terme, mais je pense que.
Et tant mieux. C'est
moi,
déjà ça. Hein.
Paul, il va falloir dégraisser, sûrement, donc ça va être quand même.
Donc jouer le maintien. Ouais, et voilà,
hein. Ils ont commencé à le faire, Denis. Hein. Certains joueurs vont quitter le Biarritz Olympique, des joueurs à forte valeur marchande hein, ouais. vont quitter le club. Jean-Baptiste Alliger a œuvré en coulisses pour récupérer évidemment pas mal d'euros sur certains très très bons joueurs, car il faut quand même le rappeler, Pierrot, tu le soulignais, Biarritz est aujourd'hui 14e de Pro D2, mais sur le papier à l'une des plus séduisantes équipes du championnat, avec de très très bons joueurs qui quitteront l'entité basque. Ce sera à la fin de cette saison, au mois de juin prochain.
Je pense qu'ils vont alliger la masse salariale, non?
Ouais, tout à fait.
Denis,
tu as la
masse salariale. Oui, c'est à court terme. C'est mal pour un bien, mais après, savoir si t'as pas l'argent,
combien de descendants en Pro D2?
Le dernier, puis après il y a un barrage. Comme en top 14.
C'est le même format. Après, si tu veux prendre le truc positif, ce club aurait pu mourir. Ce sont trois personnes qui aiment ce club. C'est pas des gens qui tombent de la lune, des investisseurs.
Il y en a un qui a joué à Bayonne. Il y en a un qui a... Le dire,
oui, non, mais bon, c'est des gens du coin qui aiment le club, qui vont se battre. Qui...
Non, mais Adrien, si t'as pas d'argent.
Et donc, leur mission,
demain,
du coup, Denis, là, tout commence.
De 5 millions, 6 millions.
Leur mission, c'est de trouver des partenaires.
Non, mais j'espère qu'ils ont des solutions.
Tu sais la difficulté, c'est que tous les gros partenaires de la région, ils sont
à Bayonne.
Sont à l'aviron Bayonne. Donc là, il faut bosser. Là,
Adrien, certains vont revenir.
Bien sûr.
Ils sont trois, ils connaissent la boutique. Peut-être que les investisseurs ne voulaient pas venir parce que c'était
voilà,
pour les anciens.
Évidemment.
Les anciens,
évidemment.
Donc forcément,
ça, c'est une chance.
Il faut le souhaiter.
C'est une chance.
Dire encore une chose, messieurs, je vous coupe, c'est que les Biarros sont aujourd'hui soulagés de savoir que Jean-Baptiste Alliger va quitter le bateau du Biarritz Olympique, hein, mm-hmm. même si la famille Gave était propriétaire du club. Et d'ailleurs, on peut penser que dans les prochaines semaines, certains supporters qui ne venaient plus au stade pour voir le BO en Pro D2 vont revenir. Car ça va évidemment changer de gouvernance dans les prochaines semaines.
Et est-ce que la municipalité qui était en guerre avec Alliger va pas justement aider les nouveaux repreneurs à trouver des investisseurs
On peut le penser, parce qu'ils
s'étaient détournés du club.
La mairie, elle va pas faire apparaître les dollars.
Non, pas eux, mais ils ont des contacts quand même. Tu sais, une mairie, elle a des leviers quand même.
Pour caricaturer Paul, Biarritz, c'est une ville où il y a beaucoup d'anglo-saxons. C'est une station balnéaire connue. Il y a beaucoup de gens qui viennent même en vacances, qui ont beaucoup de moyens, des grands patrons. Tu peux les séduire aussi comme ça. Il y avait la piste anglo-saxonne.
Moi, il y avait la piste sur Richard Paul Jones.
Paul, c'est le cas.
C'est attractif. Mais Biarritz fait rêver. Biarritz fait rêver. Et on peut penser que dans les prochaines semaines.
Ça fait rêver, mais un club de rugby aujourd'hui, il n'y a pas d'économie.
Et la bonne nouvelle de l'histoire,
ça fasse rêver.
Le discours du coup maintenant ancien propriétaire, c'est que Bayonne a pris tout le business.
Oui.
Après, c'est vrai à 100%. Quelle est la réalité de ça? Je ne sais pas, mais il est vrai que l'aviron s'est énormément développé économiquement.
On verra, mais tu peux peut-être créer un budget pour au moins jouer chaque année en Pro D2 sans souffrir comme il souffre cette année.
Et le BO n'est pas mort.
La bonne nouvelle aussi dans l'histoire, c'est que dans le championnat des dirigeants, ils vont avoir une belle équipe quand même. Hein, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes de top 14 qui ont des dirigeants aussi forts au rugby.
Messieurs, vous le savez très bien, ce sera difficile et pour le Biarritz Olympique. On souhaite le meilleur au niveau sportif pour le BO, mais à 5 km de son voisin l'aviron bayonnais, on voit mal comment deux clubs professionnels pourraient
se
en Pro D2 voire en top 14.
La fusion, c'est trop tard.
Merci Paul.
C'est beaucoup trop tard.
Merci Paul.
Merci beaucoup. Autre info importante du jour, c'est le forfait de Nadal qui a été acté hier soir. C'est le feuilleton de la semaine et on va faire le point avec Eric Salio. Salut Eric.
Salut Eric.
On verra pas Nadal à Monte Carlo. Quelles explications a-t-il donné?
Alors c'est vrai que le forfait en lui-même apparaît brutal, mais Rafa n'est pas au fond de son lit, inactif. Il tape régulièrement dans son académie, mais d'après les informations qui remontent de Majorque, c'est une gêne au dos qui l'a incité à ne pas faire le voyage en principauté. Le niveau hyper relevé du Masters 1000 de Monte Carlo a dû aussi refroidir ses ardeurs. Imaginez les dégâts d'une vilaine défaite au premier tour face à Dimitrov ou Tsitsipas si le sort avait été coquin, car c'est une réalité, il n'est plus protégé désormais et ce sera pareil à Barcelone s'il y va. Maintenant, la solution la plus intelligente, ce serait peut-être de reprendre à un niveau moindre dans un challenger. Il y en a un sympa fin avril début mai du côté d'Aix-en-Provence. Je pense qu'Arnaud Clément nous écoute. Ne perdons pas de vue que l'objectif numéro un pour l'Espagnol, c'est d'être présentable, entre guillemets, à Roland. Et ce n'est que dans 50 jours. Moi, je suis intimement convaincu qu'il foulera le cours Philippe Châtrier.
Ah oui. Et intimement convaincu.
Mais ça, c'est le fan qui parle. C'est pas un truc incroyable de dire qu'il va fouler le cours Philippe Châtrier.
Bah ouais, ouais, moi aussi, ce soir, là, si je veux, je le foule.
Parce que dans les propos d'Éric, il dit il va s'inscrire, il va jouer le tournoi.
Aujourd'hui, on peut en douter.
Quand tu le vois, j'ai encore vu une vidéo, il tape là-bas, il a un modo, il ne peut pas servir.
Mais il devait être à Monte Carlo, donc à un moment...
Pierrot, il y a quand même une énorme différence entre s'entraîner à faire des gammes et ne pas pouvoir servir. Tu peux t'entraîner. Quand tu joues à Monte Carlo, tu es obligé de servir un minimum de fois en servant à 180.
Donc 180. C'est qu'il y a un
souci. Donc Roland sera pareil, Roland.
Mais il va se soigner, le dos va être guéri. Par contre, la différence, c'est que se présenter sur le cours Châtrier ou être compétitif sur le cours Châtrier, il est là la grande différence.
Nadal, il ne viendra pas s'il ne peut pas défendre ses chances.
S'il peut jouer au tennis, il viendra dire au revoir, Pierrot.
Mais non, mais Eric, il peut avoir le même raisonnement pour Roland. S'il se sent pas capable.
Je pense qu'il aura une last dance, voilà, tout simplement. Et ce sera un moment magique quand il va rentrer sur le Châtrier.
Mais Eric, tu penses qu'il peut se présenter à Roland Garros en condition de se dire, je ne peux pas gagner Roland Garros?
Oui.
C'est le nouveau Nadal, ça.
C'est ce qu'il imagine.
Parce que là, le cas de conscience aujourd'hui, c'est j'arrête du jour au lendemain et c'est fini. J'ai pas fait au revoir. Et j'y vais pour dire au revoir, un peu comme Tsonga, puisque rappelez-vous comment c'était émouvant, Tsonga. Ben, on peut dire que Nadal, quand même, c'est un dieu, il y a un Roland Garros.
Merci Eric, on va passer à la Ligue 1.
Me remerciez pas, je reste là.
Avec le déplacement,
le mec qui croit que tout le monde parle de lui.
Le déplacement de Nice à Reims, après une nouvelle désillusion pour les Niçois, qui ont perdu à domicile contre Nantes. Les Niçois dégringolent avec une victoire seulement sur les 8 derniers matchs, 6 défaites dans cette série, et une ambiance dans le vestiaire détestable, Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Oui, salut à tous. Ouais, Nice est 16e de Ligue 1 en 2024, 16e de Ligue 1, et le Gym n'est plus du tout l'équipe solide et unie de la première partie de saison, et qui était donc deuxième à la trêve. Et Marcin Bulka, après la dernière défaite contre Nantes, l'a admis, il craint d'avoir de grands regrets en fin de saison.
On peut parler, on peut discuter, mais à la fin, il manque quelque chose, bien sûr, parce que c'est pas possible qu'on commence très bien la saison. La deuxième période de la saison, on fait les matchs comme ça, quelque chose qui va pas. Et il faut le régler, le problème, tout de suite. Après, il va y avoir les regrets comme c'est là aujourd'hui. Pour moi, c'est inacceptable.
Et le gardien polonais a aussi ciblé des partenaires qui, selon lui, n'ont plus l'envie du début de saison. Et c'est une sortie qui a un peu surpris le capitaine Dante.
Oui, ça vous donne aussi des choses à écrire, surtout. Ça vous met beaucoup de choses dans vos têtes et ça, on n'a pas besoin de le faire publiquement. Mais c'est quelqu'un de très franc et que et le plus important, c'est que on a tous compris, on a pas mal prié, on s'est réunis et on est dans la bonne communication.
Et malgré ça, bon, Nice est cinquième. L'objectif annoncé, c'est le top 6. Mais vu la dynamique et l'atmosphère, ça peut sembler de plus en plus compromis.
Ouais, alors là, peut-être que Dante, on peut lui faire confiance, mais c'est aussi un discours de façade. Parce que moi, j'entends pas souvent un joueur de foot de Ligue 1 tenir le discours qu'a tenu Marcin Bulka.
C'est clair.
Je pense qu'il y en a certains dans le vestiaire qui doivent être insupportables. Je sais pas, moi, c'est ce que je comprends.
Rappelez-vous quand même que ce vestiaire-là, il a des problèmes depuis un petit moment quand même.
Pas d'aujourd'hui.
Sportif, extra-sportif, mais on sait que ça a l'air d'être compliqué. Et d'autant plus compliqué, n'oublions jamais qu'à Nice, il fait bon vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il commence à faire beau, que tu commences à être loin de tes objectifs et que tu commences à aller faire des petits tours.
Tu bois le café avec Anna Marcha,
par exemple, et tout. c'est compliqué, il faut avoir attention. Hein. Donc ça peut vite repartir en sucette. Hein.
Maxime Tilliette en direct de Nice. Donc le match du week-end, c'est Reims-Nice ce soir. C'est donc Lille-OM et on en débat à 17h sur RMC. Mais d'abord, c'est le Journal Moyen, deuxième édition.
Un plongeon qui a fait le tour du monde et il est français, on est fiers, c'est ça, on peut être chauvin. Et puis, j'ai une énorme info à vous annoncer concernant Eric Dimeco, un événement qui va se produire sur RMC lundi, un moment d'émotion.
Mais non, mais ça va, ils ont compris que j'allais avoir mon émission, c'est bon.
Un moment de tension, un moment d'émotion. Eric va peut-être même verser sa petite larmichette. C'est tout de suite, Journal Moyen, première, deuxième édition.
Jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show sur RMC, il est 16h47. C'est l'heure du deuxième journal moyen du Super Moscato Show.
La deuxième édition sur RMC, un plongeon qui a fait le tour du monde. Il est français, ce plongeon. On est très fiers de lui. Christophe Urios est de retour en colère. Christophe Urios. Et puis, 16h55, première citation du Kikadi du jour. Je vous rappelle qu'Éric Dimeco.
Nous étions jeunes et large d'épaule.
C'est un jour de grand chelem pour Éric Dimeco.
Bandit joyeux, insolent et drôle.
Est-ce que la première question du Kikadi va être déterminante?
Peut-être.
Peut-être.
C'est le 1784e journal moyen de l'histoire du Super Moscato.
On the road again.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
On débute avec un service après-vente très rapide du Moscato Show d'hier. On parle du Paris Saint-Germain. Denis était sur un fil. Denis Charvet sur ce fameux fil.
Il finit 1-0. T'as peur quand il sort la défense centrale, notre ami Luis Enrique. Qui...
Donc t'as peur?
Oui, mais donc t'as peur à cause d'un changement de un turnover qui me semblait pas très judiciable.
Ah, non.
Oh, judicieux.
Le fil.
Mais c'est peut-être justiciable, par contre, ce changement.
Ça arrive à tout le monde. Sans transition, Anatomie d'une chute sur RMC.
J'ai glissé, chef.
Ah oui.
Et ouais, Pitibier, chef de l'art.
On a eu droit à la chute de l'année hier. Inauguration du centre aquatique olympique à Saint-Denis avec la présence du président de la République, Emmanuel Macron, de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, de plein de champions. Tony Estanguet était là, le patron des JO. Démonstration de plongeon synchronisé. Et donc, vous l'avez vu, l'image a fait le tour du monde. Ils sont trois plongeurs. Ils sont censés plonger de façon synchronisée. Et celui qui est à droite, Alexis Jandard, s'éclate sur la planche. Donc, là, gros problème.
Il glisse,
chef. Il s'éclate sur la planche, sur son dos. C'est la boulette devant la République, devant le monde du sport. Alexis Jandard s'est exprimé quelques minutes plus tard. Déjà, il publie une photo sur Instagram en montrant son dos qui est bien amoché.
Ah oui, il s'est massacré. Il a rien de cassé,
mais ça racle, chef, ça a raclé. Et donc, beaucoup d'explications quand même. Il a publié une vidéo, il s'explique, tout va bien.
C'est génial.
Je me suis pas fait mal, c'est des choses qui arrivent, qui ne m'arrivent pas à moi d'habitude. J'ai déjà cassé des planches, la planche ne m'avait pas encore brisé, maintenant c'est fait. En plus, la planche était neuve, magnifique, et je pense qu'il y a encore mon dos qui est sur la planche là-bas. Donc voilà, c'est des petits aléas, et puis c'était en direct. Si ça a pu faire sourire un petit peu, bon, tant mieux.
Et tant mieux, il garde en plus le sens de l'humour, référence ciné forcément.
On va bien et il n'y a pas de mal. C'est la chute. J'ai glissé, chef, voilà. Comme dirait.
Il n'a pas rien traumatisé.
Il est passé chez Apolline ce matin, non?
Oui, mais très bon. Très bon.
Je ne l'ai pas écouté.
Mine de rien, c'est fait une petite popularité parce qu'à la base, personne
ne connaissait.
Maintenant, quand à Paris 2024, les gens vont connaître son nom.
C'est clair.
Hier à Saint-Denis, le président s'est exprimé sur les différents sites de baignade créés pour les JO. Mais écoutez, les journalistes ne lâchent pas sur sa promesse. Emmanuel Macron, le 29 février dernier, avait déclaré. Me baigner dans la Seine, et comment? Oui, j'irai.
Ah, jamais dire ça.
Mais je ne vous donne pas la date, vous risqueriez d'être là. Écoutez, hier, on insiste, les journalistes insistent, alors qu'ils ne parlent pas du tout de ça.
C'est 23 sites de baignade, ce qui est inédit, ce qui va changer la vie de beaucoup de franciliens, et plus d'un milliard d'euros d'investissement collectif. Je ne vais pas vous donner la date.
Si, donc vraiment, votre vision, dans 16 ans.
On verra.
Vous avez vraiment ça, c'est une blague.
Pardon?
Devant le
mais on verra,
vous avez vraiment ça, c'est une blague.
Je n'ai pas l'habitude de plaisanter sur ces choses-là.
Moi, je suis à sa place. Moi, je suis à sa place. Ouais. Je leur dis, mais je me suis déjà baigné. Vous n'étiez pas là, c'est tout.
Il va
se baigner
dans la Seine ou dans le Vieux-Port?
Mais il a donné rendez-vous comme toi.
Il va se baigner dans la Seine ou dans le Vieux-Port?
Tu déconnes quand même.
Le Vieux-Port, le fait que je suis parti à pied, il n'y avait pas de taxi. Parce que bon, hop, je marche.
Il y a quand même des cobelles libres. Je vous annonce ce qui va se passer. Je n'ai pas l'info, mais je sais. J'imagine ce qui va se passer. Il va le faire. Ce sera pas un événement. Il va le faire de façon très encadrée, très privée, je dirais en secret.
Il va
se faire filmer par son équipe. Il va le faire avec une petite combi de kayakiste ou de je vois bien même à la tombée de la nuit, tranquille.
Voilà.
Il va faire ses 5 minutes.
Tu le connais bien, toi.
Et ça va être publié sur ses réseaux sociaux.
Tu
l'annonces. Ça va tomber.
Président,
ça va tomber avant le 1er juillet. Et sache pour
info que régulièrement dans le Vieux-Port, quand de l'OM gagne des grands titres.
Oui.
Bon.
Ah mais ça fait longtemps.
Il y a plein de mecs qui sortent dans le Vieux-Port.
Les valeurs du rugby.
À La Rochelle aussi.
Des nouvelles de notre manager préféré du Top 14. Et c'est pas un petit mec.
Tout ça, c'est des petits mecs, le staff et les joueurs. Le staff et les joueurs. Et moi, je suis pas un petit mec. Ok ? Donc, on y va.
Oh, valide. Oh, valide. Des nouvelles du manager de l'ASM Clermont-Auvergne, Christophe Furios, sur les réseaux sociaux. En ce moment, il y a un extrait de causerie qui ressort ces dernières heures. C'est toujours savoureux. On aime ces moments dans le journal moyen. C'est un extrait du documentaire sur Clermont au cœur du volcan qui a cartonné pour Canal. Là, on est dans un avant-match dans le vestiaire. C'est l'époque où ça allait pas bien. Alors, ça va pas bien aujourd'hui, mais là, c'était vraiment pas bien du tout. Christophe est énervé. Il prend même à partie un joueur, le troisième ligne, qui s'appelle Pesceli Yato. Il lui parle à Elaïmé Jacquet un peu.
On va les ranger. Les ranger. Mais Céline, tu viens à mon bureau lundi, tu me dis pourquoi je suis joué que 20 minutes. Là, tu commences le match, on va voir maintenant, Céline. Juste ton jeu, sois plus dur. T'es pas assez dur, mec. À ce jeu, il faut être dur.
Et consigne plus globale ensuite pour les joueurs, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire quand t'es joueur à Clermont? Il faut courir tout le temps,
Là, ce club, ce qui est important, c'est de sortir en courant. C'est le courir pendant 80 minutes là. C'est le revenir au vestiaire en courant. C'est le ressortir à l'hôpital en courant. C'est ça l'âme du club. C'est ça l'âme du club. Et nous on va la changer, mais vous, on ne sait pas pour qui.
Ah bah, je sais pas moi.
L'âme du club, c'est le travail. C'est se dire les choses. J'ai le plein le cul maintenant. Vous comprenez ça? Vous le comprenez? On va les défoncer.
Le fait beau de l'histoire, c'est toucher. Toujours le même. Hein. Bah, on va, à bah, courant ou à marchant, il faut les détrocher.
Mais on n'a rien dit.
On
n'a pas dit qu'on voulait pas courir. Hein.
Gardons une minute pour l'événement exceptionnel à venir sur RMC. Ce que vous entendez là, c'est Ser Benfiquista, l'hymne de Benfica, Stade de la Luz, jeudi prochain, Benfica Olympique de Marseille, quart de finale aller de la Ligue Europa, affiche mythique du foot européen. Mercredi 18 avril 1990, Stade de la Luz, demi-finale retour de la Coupe des clubs champions. 110 000 personnes dans le stade, 83e minute, le but de Vata de la main au marquage, Eric Dimeco, 1-0, Benfica qualifié, c'est le drame, le scandale. Événement lundi à 18h, soyez bien là au rendez-vous dans Rotten sans flamme sur RMC. Les retrouvailles, Eric Dimeco, Vata. Oui, Eric, tu seras au marquage lundi de Vata. On vous la joue transparent, c'est déjà en boîte. Je l'ai écouté, c'est extraordinaire, c'est étonnant. Et écoutez, on a même réalisé RMC, les gros moyens, production dans les moyens.
Ah ouais, là, c'est
on a réalisé. Cameroun, hein. Bravo à la prod, bravo aux équipes d'Antoine Varnier qui manage tout ça pour Rotten sans flamme. La promo, écoutez, ça donne envie d'écouter Rotten sans flamme lundi, les retrouvailles, le marquage Vata Dimeco.
Monsieur Van Langenau n'a pas vu ou n'a pas voulu voir la main de Vata.
Bonjour Vata.
Bonjour.
Vata, est-ce que tu comprends les insultes en français?
Je comprends très très bien.
Vata, est-ce qu'il y a main ou pas?
RMC, oh, l'explication. Dimeco, Vata.
J-3. Dans trois jours, vous saurez si Vata assume sa main ou pas, s'il dit à Eric, pardon, j'ai fait une main, demande-moi pardon Eric, s'il tombe dans les bras en larmes, ou s'il s'insulte et si ça termine avec un coup de tête. Rendez-vous
c'est
lundi.
C'est quoi le score du match aller déjà?
2-1. Avec des occasions d'Enzo qui est énorme.
Vous devez gagner 4-0.
Gagner 4-1.
Et ça se finit à 1-0 là-bas.
Donc
c'est but à l'extérieur,
but qui fait la différence. 83e minute.
Dommage. Marc à la 83e.
C'est dommage.
Vous avez marqué, j'essaie de déstabiliser Eric pour son prochain, mais vous me souvenez.
C'est marrant parce que ce genre de choses, ça fait partie du patrimoine du foot français. Je me souviens parfaitement de ce moment, mais j'avais oublié les détails. 83e.
Je t'en raconterai des détails si tu veux.
Première citation, on en parlera mardi dans le Moscato Show.
Ouais, on débrief fort.
Gros sujet. Première citation du Kikadi du jour. Kikadi. S'ils veulent un clown, qu'ils aillent en trouver. Mais oh là, Denis Charvet sur le fil. Je suis l'entraîneur. S'ils veulent un clown, qu'ils aillent en trouver un.
Mais oui.
Mauricio Pochettino, entraîneur de Chelsea, qui est critiqué en Angleterre.
T'étais où, toi?
Pour ne pas avoir
là,
assez de gaz. Mauricio Pochettino, le grand chelem d'Eric est en danger.
Le premier point, c'est pour
Denis.
Denis Charvet, bravo Denis. Un point donc pour Denis. Et tout à l'heure, à gagner. Un séjour au mer en pension complète. Qui a dit par SMS au 7 32 16.